Hein? Les droits de l'homme, universels, indivisibles, interdépendants, etc., etc. Tout cela n'est plus recevable. N'est plus recevable du tout. Du tout.
Mars 2001, São Paulo, la base qui suit.
Eu não sou o seu garoto propaganda. Na minha boca não é você quem manda. A minha testa não é seu outdoor. Não, eu não preciso de dó. A sua hipocrisia eu já conheço de cor. A piada é antiga. Resto de comida nessa mão inimiga. Se liga, a mim dá dor de barriga. Quem é você pra me chamar de carente? Sua alma de gente. Suas reais intenções é muita merda na mente. E boas ações só na bolsa de valores. Essa bondade, expressão desse rosto. É tudo 7-1 pra não pagar imposto. O bronze empresário, o dia solidário. Sai, não sou otário, eu sou da Zona Sul. Eu ouço Racionais, Mano Brown, esse blue. Enfia essa esmola no cu. Enfia essa esmola no cu. Olha ele lá no helicóptero. Pra lá e pra cá de avião, é. E aqui no chão, com seu carro importado, blindado, muros altos e eletrificados, por todos os lados. Em todos os lugares, os paramilitares, vigias, alarme, Doberman, Rottweiler, Pastor Pitbull, demônios Exu. Enfia essa esmola no cu. Enfia essa esmola no cu.
C'est pour remettre en question les gens qui font la charité au feu rouge et qui te donnent la petite pièce de monnaie parce qu'ils vont pouvoir déduire ça de leurs impôts, parce que ça ne va pas remettre en question les valeurs de la bourse, ça ne va pas faire chuter l'économie et que ça va leur nettoyer leur conscience. Quoi.
La charité, tu peux te la foutre au cul. Quoi.
Ça, voilà, exactement.
Alors, dans ce bouquin La haine de l'Occident, Jean Ziegler, vous parlez des effets,
oui.
Mais vous allez... Vous essayez de regarder les causes de, oui. cette haine, de ce rejet radical aujourd'hui, et vous allez aux racines de la haine, que vous appelez les racines de la haine, déterrer les racines de la haine et voir de quoi est faite cette mémoire blessée du Sud, de ce ressentiment. Alors évidemment, vous commencez, on aurait pu commencer avant, mais enfin vous commencez quand même par évoquer à grands traits, oui, ce que fut... la traite négrière.
Oui.
Vous évoquez aussi à grands traits ce que fut la période coloniale.
Oui.
Vous évoquez aussi à grands traits, si on a pensé après les décolonisations dans les années 60, même si on voyait ce qu'on a appelé le néocolonialisme se mettre en place, mais on pouvait espérer qu'un certain nombre des États ou des parties du monde décolonisés allaient parvenir à une certaine souveraineté, à un certain développement. Or, on voit que ce développement n'est pas à l'ordre du jour et que la révolution néolibérale, enfin le nouveau capitalisme, a plutôt contribué à créer un fossé encore plus grand, plus important, entre le Nord et le Sud, notamment à travers les politiques du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Alors, vous prenez aussi des exemples, parce que vous êtes un homme de terrain, c'est pas seulement la théorie, et puis vous êtes un voyageur, vous enquêtez à travers votre activité, vous allez notamment vous évoquer le Nigeria, et vous évoquez la Bolivie. C'est presque deux histoires...
Antinomiste.
Voilà.
Nigeria, c'est l'exemple type d'un grand, puissant pays du tiers-monde, qui abrite des très grandes cultures, certains millénaires, les Fulani, les Yoruba, etc., etc., qui est le pays le plus peuplé d'Afrique, hein, plus de 100 millions d'habitants, qui est le 8e producteur de pétrole du monde et qui est totalement entre les mains des trusts pétroliers étrangers, notamment de Shell, de Total, de Repsol, etc., etc., d'Exxon, de Texaco, qui se sont arrangés dès l'indépendance, enfin... 6 ans après l'indépendance, avec les militaires, une junte militaire qui gouverne sous des masques constitutionnels différents depuis 1966, cet immense pays, maintenant parti d'Abuja, parti d'une nouvelle capitale sur les plateaux de Jos, et le résultat de cet extraordinaire développement pétrolier-gazier est que le Nigeria a le taux d'analphabétisme le second de l'Afrique, plus de 62%